RFI, 8h30 à Paris, 6h30 en temps universel. L'heure du journal avec vous, Simon Bourtembourg, bonjour.
Bonjour Julien. Écouter et exprimer sa solidarité avec les habitants de Goma. Bintou Keïta est en visite dans la capitale provinciale du Nord-Kivu, désormais sous contrôle de l'AFC M23. La chef de la MONUSCO doit rencontrer aujourd'hui Corneille Nangaa. Les relations entre Brazzaville et Kigali sont au beau fixe, c'est ce qu'affirme Anatole Collinet-Makosso. Rien de politique, assure le Premier ministre congolais après la fin de la coopération avec le Rwanda au sujet des terres jusqu'alors mises à disposition à des entreprises du pays. À la une également, Pascaline Bongo inculpée en France, cette fois dans une nouvelle affaire de blanchiment et de corruption. Un mandat présidentiel sans élection pour le colonel Assimi Goïta. Le maintien au pouvoir de l'ensemble des institutions de la transition malienne a été acté en Conseil des ministres. Réduite au silence, l'opposition s'indigne, nous le verrons. Et puis, le dossier de cette édition consacrée à la transhumance et ses dérives en Centrafrique. Depuis 10 ans, de nouvelles dynamiques pastorales ont émergé dans le pays, des pratiques sources de conflits meurtriers, nous le verrons. C'est une première depuis la chute de Goma aux mains de l'AFC M23 il y a 5 mois. Bintou Keïta est arrivé hier dans la capitale provinciale du Nord-Kivu. Le début d'une visite de 3 jours pour la chef de la MONUSCO qui doit s'entretenir avec le leader politique de l'Alliance Fleuve Congo. Patient Ligodi.
Ce sera le moment le plus attendu de cette visite, la rencontre entre Bintou Keïta et Corneille Nangaa. Le mouvement armé considère la mission onusienne comme une force belligérante vaincue, comme l'armée congolaise. Depuis, l'AFC M23 contrôle les zones et surveille de près les déplacements des casques bleus. Le mouvement veut aller plus loin et pousse pour obtenir un mémorandum d'entente avec la MONUSCO. Objectif, redéfinir sa présence sur le terrain. Mais cette demande agace. Une source onusienne contactée par RFI affirme que ce ne sera pas à l'ordre du jour. Autre épisode, en avril, l'AFC M23 a accusé les FRDC, la MONUSCO et la SADC d'avoir mené des attaques contre Goma, Kavumu et d'autres localités dans les deux Kivu. La mission onusienne a démenti. Cette visite de Bintou Keïta intervient aussi au lendemain d'un rapport accablant. Selon le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, la majorité des violations des droits humains enregistrées au mois d'avril sont le fait de groupes armés. Et en tête, l'AFC M23 soutenu par l'armée rwandaise. Mais malgré ce contexte, le dialogue n'a pas été rompu. En mars, Corneille Nangaa avait déjà reçu Bruno Le Marquis, numéro 2 de la MONUSCO. Et cette nouvelle visite arrive aussi à un moment particulier. Dans 2 semaines, Bintou Keïta doit s'exprimer devant le Conseil des sécurités.
Au sud Kivu, cette fois, la société civile dans toute sa diversité continue d'appeler pour le retour à la paix dans l'est de la RDC. À Bukavu hier, les représentants des organisations de la société civile se sont donc prononcés pour un dialogue inclusif de toute urgence. Ils recommandent notamment la mise en place d'un couloir humanitaire, la réouverture de l'aéroport de Goma et également celle des banques fermées en raison du conflit dans l'est du pays. La paix dans l'est de la RDC qui découlera peut-être d'un accord avec les États-Unis sur les réserves minières congolaises. Cuivre, cobalt, argent ou encore uranium, des ressources naturelles que Kinshasa compte mettre à profit pour obtenir un soutien américain à la résolution du conflit avec le groupe armé de l'AFC M23. En tout cas, à l'occasion de la DRC Mining Week à Lubumbashi, les entreprises américaines étaient très attendues. Alexandra Branjon, l'ambassadrice des États-Unis en RDC, a même fait le déplacement.
Trop longtemps, nous avons été en retrait sur le continent, a reconnu l'ambassadrice américaine devant un parterre d'investisseurs. Avant d'ajouter, nous nous concentrons désormais sur une croissance portée par l'investissement et le commerce. Les Américains veulent diversifier leurs sources d'approvisionnement en minéraux nécessaires aux technologies de pointe, cobalt, coltan, lithium, et dont la plupart des gisements se trouvent dans l'est de la RDC. Pour y arriver, Lucie Tamlin a insisté sur la nécessité de rétablir la paix et appelé au retrait de toutes les forces étrangères du pays. Washington et Kinshasa négocient depuis plusieurs semaines un accord qui devrait permettre aux États-Unis d'accéder aux minéraux stratégiques de la RDC en échange d'une aide pour résoudre le conflit avec le groupe armé AFC M23. Avec cet accord, Washington espère pouvoir prospecter dans la région. Les Américains disent avoir investi plus de 6 milliards de dollars dans le corridor de Lobito. La rénovation d'une ligne ferroviaire allant de la Zambie à l'Angola via la RDC qui permettrait d'exporter les ressources minières de ces 3 pays.
Alexandra Branjon. N'y voyez pas un coup de canif dans les relations diplomatiques entre Brazzaville et Kinshasa. Anatole Collinet-Makosso est revenu sur la fin d'une mesure controversée, la mise à disposition des terres congolaises à des entreprises rwandaises. Le Premier ministre congolais assure que cette décision n'a rien de politique. La fin du contrat entre le Congo et le Rwanda relèverait seulement de clauses contractuelles.
La coopération avec le Rwanda est parfaite. Le problème qu'il y a avec le Rwanda, c'est la caducité d'un certain nombre d'actes administratifs. Le Congo a mis à la disposition des entreprises rwandaises des terres pour l'activité agricole. Les populations, du fait du conflit qu'il y a entre le Rwanda et la RDC, ont cru voir une collaboration avec le Rwanda. C'est juste une autorisation express d'occuper qui a été donnée à la société Cristal Venture. Et il y a des clauses suspensives. Si au bout d'un certain temps, aucune activité n'a été réalisée, l'autorisation devient caduque. Et lorsque nous avons constaté que les autorisations qui ont été données n'ont pas fait l'objet d'exploitation, elles ont été annulées. Ce qui n'a rien à voir avec la qualité des relations diplomatiques que nous entretenons avec le Rwanda, des relations qui sont toujours intactes, qui ne souffrent d'aucune anomalie.
Anatole Koliné-Makoso, qui s'est par ailleurs entretenu hier avec son homologue sénégalais à l'occasion d'une visite d'amitié et de travail de 3 jours dans le pays. Un déplacement qui vise à renforcer la coopération entre le Congo-Brazzaville et le Sénégal. Pascaline Bongo, inculpée en France dans une affaire de blanchiment et de corruption. La fille aînée du défunt président Omar Bongo et sœur de l'ex-président Ali Bongo est donc impliquée dans une nouvelle procédure judiciaire. L'enquête du parquet financier n'est pas liée à l'affaire dite des biens mal acquis. Pascaline Bongo est ici mise en examen pour des faits remontant aux années 2000 quand elle était directrice de cabinet du défunt président gabonais. Entre 10 et 11 millions de dollars de fonds auraient pu être blanchis et ce via une organisation hongkongaise. La défense Bongo dénonce un acharnement juridique. Maître Corinne Dreyfus-Schmidt au micro d'Amélie Tulé.
Cette mise en examen récente de Madame Bongo est pour moi un non-événement. À partir du moment où on voit le nom de Bongo, on voit rouge et systématiquement on s'acharne juridiquement sur Pascaline Bongo notamment. Alors cette affaire démarre, il faut quand même le dire, le 3 juillet 2015, c'est-à-dire qu'il y a une ouverture d'information en juillet 2015. Il se passe rien pendant 10 ans. Bon, donc vous imaginez bien que si on avait des éléments tangibles, on n'aurait peut-être pas attendu tout ce temps-là. Elle est mise en examen 10 ans plus tard, avec un dossier qui est très lacunaire. On ne sait même pas la date précise des faits. Ça concerne une société hongkongaise et le Gabon. Bon, voilà, tout ça est extrêmement confus et on a saisi la chambre de l'instruction pour contester cette mise en examen et on attendra d'être convoqué. Je suis assez sereine, puisqu'on a eu à peu près la même chose dans une autre affaire similaire il y a quelque temps et on a obtenu la relaxe de Pascaline Bongo.
Dans ce dossier, l'ancien conseil d'Omar Bongo, l'avocat français Jean-François Meyer, est lui aussi mis en examen. Des élections sans opposition. Human Rights Watch réagit à la proclamation hier des résultats provisoires des législatives au Burundi. Le CNDD-FDD a raflé les 100 sièges de députés mis en jeu. Le parti qui règne d'une main de fer sur le pays depuis 20 ans avait déjà remporté presque tous les sièges de conseillers communaux. L'ONG relate que dans plusieurs communes, le nombre de votes exprimés aurait dépassé le nombre d'électeurs inscrits. Au Mali, l'opposition s'indigne après l'annonce du maintien des militaires au pouvoir. Un projet de loi qui prévoit d'accorder au général Assimi Goïta un mandat de 5 ans, renouvelable à partir de 2025, a été adopté mercredi en Conseil des ministres. Ce maintien en pouvoir du président et de l'ensemble des institutions de la transition intervient après la dissolution des partis politiques le mois dernier. David Baché, les responsables de l'opposition malienne expriment une colère aussi vive que désabusée.
Nous hésitons entre indignation et indifférence, décrit un ancien ministre, tant cela était prévisible et tant nous n'attendons plus rien des autorités. Alors qu'ils avaient promis de sécuriser et de réformer le pays avant d'organiser rapidement des élections, un dirigeant de parti dissous note que les militaires au pouvoir se révèlent être un autre genre de politiciens. Rappelant tous les calendriers électoraux souverainement fixés et souverainement violés, cette source interroge « Quel politicien civil a autant trahi ?» Plusieurs opposants notent le caractère anticonstitutionnel du projet de loi et d'un tel maintien au pouvoir sans élection, mais ne se font plus d'illusions. La réelle intention des militaires est de rester au pouvoir, constate désabusé un ancien ministre. Le reste n'est que de l'habillage. Au moment où nos soldats sont massacrés, ils ne pensent qu'aux délices que le pouvoir usurpé leur procure, fustige un autre ancien ministre, qui dénonce un nouveau coup d'État, cette fois-ci constitutionnel. Le Mali vaut mieux qu'un mandat volé, poursuit ce pilier du mouvement pro-démocratie. Mais le peuple, tôt ou tard, leur retirera ce qu'ils ont cru pouvoir garder par la force. Nous abordons l'une des phases les plus sombres de notre pays, pose enfin un cadre de l'opposition, qui appelle à résister par tous les moyens possibles.
La précision signée David Baché. C'est une pratique pastorale traditionnelle sur le continent. À la saison sèche, les éleveurs déplacent leur bétail à la recherche d'eau et de fourrage. Nous en avons déjà parlé sur RFI. La transhumance crée des tensions entre éleveurs et agriculteurs. C'est notamment le cas en Centrafrique où cette activité est fortement liée aux groupes armés. Mais la crise qui fait rage dans le pays depuis 10 ans a favorisé l'émergence de nouvelles dynamiques pastorales et il est temps d'agir, plaide l'International Crisis Group. L'ONG a publié récemment un rapport sur la transhumance en Centrafrique, l'aboutissement de 2 ans de travail, et on y apprend, Penaï Traoré, que la transhumance est devenue un enjeu sécuritaire pour Bangui.
Premier constat, les pratiques pastorales se sont militarisées au fil des ans. Face à de nouveaux acteurs qu'elle accuse de connivence avec les groupes armés, la Centrafrique voit la transhumance comme un possible facteur de déstabilisation et donc comme un enjeu de souveraineté. Pour International Crisis Group, cela a conduit à marginaliser les acteurs du secteur, mais aussi les territoires et infrastructures de transhumance. Conséquence, selon le rapport, les éleveurs désertent les routes, favorisant le passage du bétail dans les champs des populations sédentaires au risque de représailles. Autre point essentiel, relevé dans le document, la transhumance en tant que mode de vie culturel et identitaire est en train de glisser vers une pratique beaucoup plus économique et spéculative. ICG parle de néo-éleveurs, ces entrepreneurs pastoraux qui confient le transport de leur bétail à des bouviers lourdement armés pour assurer la protection des troupeaux. Ce procédé très répandu au Tchad gagne de plus en plus la Centrafrique. Il implique des hommes d'affaires, des politiques, des notables et des cadres de l'armée selon l'ICG. Le rapport note aussi l'afflux d'éleveurs étrangers. En plus des transhumants habituels qui parcouraient les couloirs centrafricains, il faut désormais compter avec le bétail venu du Sahel, notamment du Niger, de la Mauritanie ou du Nigeria.
Et dans son rapport, l'International Crisis Group pose aussi des réponses aux violences associées à la transhumance. Si les autorités centrafricaines ont tenté déjà de créer une unité spéciale mixte de sécurité pour sécuriser donc les couloirs de transhumance, le projet n'a finalement pas abouti. L'ONG invite cette fois Bangui à réhabiliter les infrastructures pastorales comme le centre de vaccination pour le bétail. Fulbert Ngoji est chercheur spécialiste de l'Afrique centrale au sein de l'International Crisis Group. Il plaide notamment pour plus de coopération régionale avec des pays comme le Tchad.
Tout le monde a demandé le retour de l'État, la sécurité. Sans sécurité, il n'y aura pas de volonté de dialoguer pour trouver des solutions communes aux défis que pose la transhumance. Donc le rétablissement de l'État est très très primordial. Il est aussi important de répondre aux besoins des acteurs impliqués dans la transhumance. C'est vraiment essentiel. Mais il faut aussi que les populations locales, en fait, qui vivent la transhumance avec beaucoup d'angoisse, qu'elles voient dans la transhumance quelque chose qui change en fait un peu leur situation, en ce sens qu'il faut que les taxes qui sont perçues par la transhumance permettent, par exemple, de faire fonctionner les hôpitaux locaux, les écoles, donner le moyen aux acteurs concernés, aux éleveurs ou bien aux agriculteurs ou aux concernés en fait de dialoguer eux-mêmes. Et à ces sujets, nous avons identifié que l'expérience du RBM, qui est le réseau Bilital Marobé, qui existe déjà au Sahel, c'est quelque chose qu'il est possible de répliquer en Afrique centrale. C'est une association d'éleveurs qui permet déjà aux éleveurs en fait de peser sur les politiques publiques, et la Fédération nationale des éleveurs centrafricains en fait qui pourrait peut-être s'élever davantage, prendre un leadership sous-régional pour intégrer non seulement la question des peules, mais aussi des étrangers qui arrivent, parce que c'est un flux dont la Centrafrique ne pourrait pas s'en départir. Il faut trouver les moyens de les réguler.
Le dossier de ce journal à retrouver sur notre site internet. Fulbert Nodji sera lui l'invité de Penaï Traoré dans l'émission Un jour au village, ce samedi à partir de 13h10 temps universel. Mais pour l'heure, la suite des RFI Matin, c'est avec vous Julien Coquelrohem.